Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Quels actes après les paroles de paix en Corée? Pyongyang s'engage à démanteler son site nucléaire dès ce mois de mai. Mais comment les médias nord-coréens sont-ils informés? De ces moments historiques pour leur pays? C'est ce que nous verrons avec notre envoyé spécial à Pyongyang, Élise Delève. À peine nommé chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui s'envole pour l'Arabie Saoudite avec l'Iran et une possible sortie de l'accord de Vienne en ligne de mire, nous dira Nabila Hamel. Une relation diplomatique en béton armé, c'est celle qui unit la France et l'Égypte de l'autocrate Al-Sissi. Explication à suivre sur ces ventes d'armes au cœur de la visite de Jean-Yves Le Drian au Caire. Et puis retour sur la manifestation d'hier à Gap dans les Hautes-Alpes pour la solidarité et l'hospitalité envers les migrants. Une manière de répondre au coup de force de l'extrême droite identitaire il y a une semaine au col de l'Échelle. La Corée du Nord s'est donc engagée à démanteler son site d'essai nucléaire et ce, dès le mois de mai. C'est ce qu'affirme ce dimanche le président du Sud, Moon Jae-in. La dénucléarisation en acte et en date, donc pas de confirmation pour le moment depuis Pyongyang, où la population nord-coréenne, elle, commence tout juste à comprendre la portée de la poignée de main historique de vendredi. Il faut dire que les médias du Nord n'ont évoqué cette rencontre qu'hier matin, comme l'a constaté notre envoyé spécial à Pyongyang, Élise Delève.
Aujourd'hui, nous annonçons au peuple tout entier une nouvelle historique. Les Nord-Coréens ont appris hier l'issue du sommet entre les deux Corées. Les images qui ont fait le tour du monde depuis vendredi sont enfin arrivées ici. Des images étrangères, c'est très rare, une façon pour le pays de tenter de se normaliser. Le régime veut aussi montrer aux habitants que la Corée du Sud est désormais légitime. Jusqu'à présent, pour Pyongyang, Séoul était la marionnette des Américains. Cette fois, le discours change, même dans les mots employés. Le leader du Corée du Sud est appelé « président » dans le journal, alors que les présentateurs donnaient auparavant juste son nom. Un manque de respect ici. Le journal qui a annoncé la nouvelle a duré 3 fois plus longtemps que d'habitude. Tout a longuement été détaillé. Les différentes étapes de la journée, les discussions, le nom de toutes les personnes qui se sont serrées la main. La déclaration de paix a entièrement été lue par une présentatrice. En revanche, aucun son de Kim Jong-un et aucune ambiance sur place. « Je suis tellement content que je ne trouve pas mes mots », dit ému un Nord-Coréen qui arrête de manger pour écouter les informations. « Nous sommes fiers », ajoute une femme à côté de lui, fière du courage de notre leader suprême, Kim Jong-un, seul artisan de la paix pour elle.
Élise Delève en Corée du Nord pour France Culture et Kim Jong-un qui aurait accepté d'inviter des experts nucléaires américains pour superviser donc le démantèlement de ses installations atomiques. Kim Jong-un prêt à présenter un plan précis de dénucléarisation, c'est ce qu'affirme de son côté le chef de la diplomatie américaine. Mais Mike Pompeo aura surtout le dossier iranien en tête ce dimanche. Il entame une tournée au Proche-Orient, il est à Riyad, Arabie Saoudite, d'où il aura bien Téhéran en ligne de mire, c'est la priorité du tout récent successeur de Rex Tillerson, Nabila Hamel.
Une priorité en parfaite symbiose avec celle de Donald Trump. S'il n'avait pas encore sa nouvelle casquette lorsqu'il est allé préparer le futur sommet américano-coréen, Mike Pompeo va reprendre langue en tant que chef de la diplomatie, cette fois avec les principaux alliés des États-Unis au Moyen-Orient. D'abord le Golfe, l'Arabie Saoudite, ensuite Israël et la Jordanie sont les 3 étapes de sa tournée. L'ancien patron de la CIA, dont le chef de la Maison-Blanche disait qu'il pensait comme lui, a été nommé au département d'État, presque en même temps que John Bolton, le nouveau conseiller à la sécurité nationale, ce qui est perçu comme le signe d'un durcissement de l'administration américaine. Le dossier du nucléaire iranien est au programme de cette tournée proche-orientale de Pompeo, car l'hypothèse la plus probable, selon lui, est que Donald Trump annonce dans les prochains jours un retrait des États-Unis de l'accord de 2015. Entre-temps, le département d'État travaille à convaincre les pays du monde entier de sanctionner les individus et entités associés au programme de missiles de l'Iran, programme qui n'est pas couvert par l'accord de Vienne. En tout cas, cette visite du chef de la diplomatie américaine en Arabie Saoudite intervient au moment où une montée de tensions est enregistrée au Yémen voisin. Les autorités saoudiennes ont annoncé ces dernières 48 heures une importante opération militaire contre la rébellion houthi à Sanaa et ont fait état de dizaines d'insurgés tués, dont 2 commandants. Les rebelles yéménites déclarent, eux, avoir tiré hier 8 missiles sur le territoire saoudien. Riyad, qui confirme en avoir intercepté 4, a toujours accusé Téhéran d'avoir fourni ce type d'armes aux chiites houthis.
Diplomatie et vente d'armes indissociables également dans le déplacement en Égypte de Jean-Yves Le Drian. Le ministre français rencontre tout à l'heure le président Al-Sisi et ensemble ils vont évoquer bien sûr le conflit en Syrie et entre Israël et la Palestine. Mais cette visite, elle est aussi l'occasion d'entretenir une amitié pas franchement désintéressée entre le français et l'égyptien. Explication depuis le Caire avec François Umfer-Khattadji.
Jean-Yves Le Drian va retrouver l'ex-maréchal Sisi avec qui il a noué une relation d'amitié. Les deux hommes se voient fréquemment depuis que le premier contrat d'exportation d'avions de combat Rafale a été signé avec l'Égypte en 2015. Sans oublier les ventes de deux porte-hélicoptères Mistral, de corvettes, de missiles, l'Égypte est récemment devenue le premier client de la France dans le secteur de l'armement. Et ce n'est peut-être pas terminé puisqu'une option d'achat de 12 Rafales supplémentaires après les 24 déjà vendus intéresse beaucoup le Caire. Problème, les États-Unis bloquent les discussions car ils refusent l'exportation d'un composant américain à bord du missile de croisière Scalp, MDBA, un missile livré avec les Rafales. Seul un arrangement franco-américain pourrait débloquer la situation. Deux nouvelles corvettes sont aussi dans le viseur des Égyptiens. On parle donc de plusieurs milliards d'euros de contrats. Ces discussions restent cependant très discrètes. La France a de plus en plus de mal à assumer sa relation avec le régime égyptien. Les ONG dénoncent la mansuétude, voire la complicité de la France avec l'Égypte, accusée de pratiquer la torture à grande échelle et de mener contre les opposants la répression la plus violente que le pays a jamais connue.
France Culture, 9h passées de 6 minutes, la grève à la SNCF, à présent deuxième journée du sixième épisode de grève perlée ce dimanche avec la direction de la compagnie qui se félicite de voir le trafic beaucoup moins perturbé qu'au début du mouvement. Elle affirme que le taux de grévistes chez les conducteurs de train est passé pour la première fois en dessous des 50%. Aujourd'hui, la moitié des TGV est censée rouler, un intercité sur 3, 2 TER sur 5 et 3 transiliens sur 5 également assurés. Direction à présent les Hautes-Alpes et cette ville de Gap où étaient rassemblés hier soir plus de 200 militants d'associations qui œuvrent en faveur de l'accueil des migrants, des personnes qui traversent souvent à pied les cols alpins, qui marquent la frontière entre l'Italie et la France. Il faut se souvenir que le week-end dernier, c'est l'extrême droite xénophobe de Génération Identitaire qui avait mené une action coup de poing au col de l'Échelle. Alors ce samedi, les pro-migrants leur ont répondu hospitalité et solidarité, et ce malgré la répression dont sont victimes certains d'entre eux, Damien Triomphe.
Les associations de soutien aux migrants tentent de faire oublier les débordements du week-end dernier, notamment ici à Gap. Elles ont voulu renvoyer une bonne image de leur action. C'est pour ça que les organisateurs ont annulé la marche de solidarité à travers la ville, prévue à l'origine, et préféré un rassemblement pendant 2 heures, plus facile à encadrer. Patrick de la Cimade.
Avec tous les incidents qu'il y a eu au col de l'Échelle, avec l'extrême droite, tous les problèmes qu'on peut avoir à l'heure actuelle avec les migrants sur le département, c'était important de montrer qu'il y avait un certain nombre de gens responsables dans les Hautes-Alpes, dont la principale préoccupation est l'accueil des migrants et en particulier des jeunes.
Deuxième objectif du rassemblement, rappeler que 3 jeunes pro-migrants, une Italienne, 2 Suisses, Théo, Bastien et Eleonora, sont toujours en détention provisoire. Et pourquoi pas monter un comité de soutien ?
Moi, c'est plutôt la partie juridique et institutionnelle qui m'importe et le fait de leur donner des avocats et de leur donner toutes les possibilités pour se défendre. On les accuse d'avoir facilité l'entrée de clandestins en France. Je trouve ça absolument scandaleux.
La justice leur reproche d'avoir empêché les forces de l'ordre de procéder à des contrôles de migrants. Leur demande de remise en liberté est examinée jeudi par le tribunal correctionnel de Gap.
Damien Triomphe, et on le rappelle dans le même temps, le parquet de Gap a classé sans suite vendredi l'enquête concernant ces militants d'extrême droite qui s'étaient vantés le week-end dernier d'avoir eux-mêmes empêché des migrants d'entrer sur le territoire français au col de l'Échelle. La tribune d'un mise en examen à présent, c'est-à-dire dans le journal du dimanche, Vincent Bolloré qui s'exprime pour la première fois depuis sa mise en examen pour corruption dans le cadre de l'obtention par son groupe de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. L'homme d'affaires tente de renverser l'accusation, il se dit victime de préjugés misérabilistes sur le continent africain, d'une vision condescendante, d'une terre de non-gouvernance où, je cite, des chefs d'État décideraient seuls d'accorder des contrats mirobolants à des financiers peu scrupuleux. Vincent Bolloré, on l'aura compris, défend farouchement toute malversation. Côté météo, le pays est divisé en deux ce dimanche. Soleil voilé à l'est et pluie localement orageuse sur une grande moitié ouest du pays. Même chose pour les températures, c'est de plus en plus frais à l'ouest, pas plus de 9 à 13 degrés cet après-midi de Laval à Bayonne et des températures qui atteindront tout de même 18 degrés à Marseille, 23 à Besançon et 25 degrés pour Strasbourg.